tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut tout le monde.
Et d'ATH.
Bonjour, bonsoir.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera d'un pack graphique officiel pour StarCraft Remastered. On enchaînera ensuite sur un mode pour Star Wars Battlefront 2. Nous évoquerons également deux petits jeux, à savoir Remnant of Ashes et Greedfall. On parlera du système de dialogue de Watchdog Legions, on évoquera l'escroquerie Shenmue 3, et enfin, on terminera par les éditeurs qui se sont ridiculisés chez nos amis britanniques, n'est-ce pas? Mais on y revient tout à l'heure. Messieurs, je vous propose de commencer donc avec un pack graphique officiel, mon cher Mordren, sur StarCraft Remastered.
Oui, alors les joueurs de StarCraft 2 seront certainement familiers avec le mode Carbot Animation, qui est donc un mode qui transfère le jeu StarCraft 2 dans un univers graphique très cartoonesque. Mmh. On en avait déjà parlé à l'époque, Je crois que c'était en 2016. C'est un mode qui est très très joli et qui vraiment te fait redécouvrir le jeu de manière totalement différente, même si évidemment les mécaniques de gameplay sont exactement les mêmes. Mmh. Là en fait, pourquoi on vous en reparle, c'est parce que StarCraft Remaster, donc le remake du premier, va aussi avoir ce mode graphique, et ça sort du coup le 10 juillet. Les développeurs de ce mode ont fait un partenariat avec Blizzard, et du coup ils vendront ce pack de textures, entre guillemets. Et voilà, c'est une manière un peu différente de redécouvrir ce jeu, qui évidemment est toujours aussi bien.
Ah bah c'est totalement cute en plus, j'aime beaucoup. Tu pourras faire jouer StarCraft à ton petit neveu ou ta petite nièce.
Oui, carrément.
StarCraft, c'est quand même un jeu assez gore à la base, donc c'est pas forcément un jeu que je ferais jouer à des gamins. Quoique, personnellement, ça m'a pas freiné à l'époque, hein, je vous avoue. Ouais. Mais là, pour le coup, ça change complètement le feeling du jeu, je trouve. Quoi. Et ouais. Si tu veux faire découvrir StarCraft à tout petit, ça peut être une chouette porte d'entrée, quoi.
Bon, le jeu reste ce qu'il est, hein, c'est-à-dire qu'il reste difficile, évidemment. Donc, moi, j'aurais tendance à choisir comme porte d'entrée StarCraft 2 Carbot.
Ouais, mais le problème de Carbot, c'est que c'est pas pour toutes les unités, c'est sur une map spécifique, voilà.
En tout cas, petite friandise pour ceux qui jouent toujours à StarCraft Remastered, ça peut vous aider à rallumer la flamme encore une fois.
Mais on a l'impression que c'est un jeu entre guillemets Cartoon Network, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais.
Et ouais, après je trouve que ce rendu visuel graphique c'est intéressant sur la licence StarCraft. Après c'est vrai que ça dénature totalement le jeu d'origine. Il est pas aussi sombre comme vous l'avez dit. Mais bon, c'est une autre vision et puis t'as toujours le jeu de base. Donc voilà, c'est pas comme s'il remplaçait le jeu d'origine. Donc c'est assez intéressant, quoi.
Oui, c'est ça. C'est une alternative, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais.
Simplement.
Je vous encourage aussi à aller voir la chaîne YouTube Carbot Animations, qui pour le coup en fait fait des trucs, des petits courts-métrages d'animation dans l'univers des jeux Blizzard en général, et évidemment StarCraft. C'est toujours assez sympa à regarder.
D'ailleurs, j'ai une question parce que on voit qu'il y a dans le trailer une scène de narration. Est-ce que ça a été réécrit ou bien c'est les mêmes dialogues mais juste avec des skins différentes en fait?
Ça, c'est une très très bonne question. Je saurais pas te dire puisque
je sais qu'ils vont refaire les cinématiques.
Parce que ouais, ça pourrait être intéressant que, entre guillemets, le ton soit un peu plus enfantin pour que, comme on l'avait dit, vous pouvez le faire jouer à votre petit-neveu, votre petite-nièce. Par contre, comme disait Tyran, le jeu était peut-être gore à l'époque, mais je sais très bien que moi, par exemple, quand j'étais petit, je jouais à Total Annihilation. C'était des jeux un peu dans ce style-là, et c'était pas une violence qui était vraiment traumatisante. Même le jeu d'origine, je pense que c'est StarCraft, un petit qui aimerait les graphismes un peu old school et austères, je pense qu'il, voilà, ça le dérangerait pas, quoi. Forcément, c'est pas un jeu où il y a une violence vraiment graphique qui va te sauter au visage, donc.
Quand je dis les petits, pour moi, c'est vraiment les tout petits, quoi.
Ouais, oui.
Évidemment, ouais, qu'un gamin de 10 ans, moi, ça me dérange pas qu'il joue à StarCraft, hein. Je veux dire, moi, ça m'a pas freiné à l'époque, encore une fois, hein. Donc, voilà.
Ouais, en plus, ça, t'es quand même assez éloigné du champ de bataille. Et, tu vois, c'est pas un FPS où tu peux buter des mecs dès leur mettre des headshots dans la tête.
Non, mais puis encore une fois, ça dépend des gamins, quoi. Les gamins sont pas en sucre.
Ouais, voilà.
Il y en a qui sont plus matures que d'autres, et bon.
Oui.
Voilà. C'est au cas par cas, quoi. Bon, messieurs, on va enchaîner sur un mode, encore une fois, qui va faire plaisir à Mordren.
Ouais, alors c'est un mode de Star Wars Battlefront 2, pas celui d'Electronic Arts, mais celui de 2005, qui se propose d'implémenter toutes les nouveautés qui étaient prévues dans le Star Wars Battlefront 3. Et ils ont récupéré, en fait, un maximum d'assets de ce jeu en prévision qui a finalement été annulé. Ils ont prévu, du coup, de lancer ce qu'ils appellent Star Wars Battlefront 3 Legacy. L'idée, c'est évidemment de pouvoir nous proposer des batailles à la fois dans l'époque de la guerre des clones et l'époque de la République et de l'Empire. Ça a l'air vraiment, vraiment très cool. Alors évidemment, le jeu est forcément moins beau qu'un jeu actuel, mais je trouve qu'ils ont bien réussi leur affaire. Il y a des choses très très sympas dans le trailer de démo, puisqu'ils lancent une démo sur deux maps de la guerre des clones, et moi ce qui m'a soufflé, c'est le côté bataille dans les airs avec les vaisseaux spatiaux. Je trouve ça assez impressionnant en fait, hein, pour un mode, donc les mecs se sont vraiment sortis les doigts, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Évidemment, renseignez-vous sur ce qui est requis comme autre mode pour pouvoir y jouer.
Il faut le patch non officiel, notamment.
Voilà, notamment. Bah, voilà, c'est une démo, hein, donc le mode en entier n'est pas encore disponible. Bah,
surtout qu'il y a pas mal de choses qu'il va falloir créer from scratch. Donc,
ouais. Voilà. Donc franchement, une belle initiative.
Ah, mais c'est triste pour Battlefront 2 2016, parce que j'ai plus envie de jouer à ce jeu-là qu'au vrai jeu, entre guillemets, qui est sorti par Electronic Arts. Mais ce qui est intéressant, comme tu le dis, c'est que le jeu reste assez impressionnant, mais même déjà le Battlefront 2 à l'époque, pour son année de sortie, c'était un jeu qui était quand même assez intéressant en termes de gameplay. T'avais vraiment une map qui était ultra ouverte, tu pouvais prendre des vaisseaux, survoler les champs de bataille, etc. Ce qui a été retiré un petit peu en fait dans les Star Wars qui sont arrivés récemment là. Ils l'ont incorporé mais d'une manière, on va dire, beaucoup plus artificielle. Il fallait faire des kills ou bien récupérer un power-up sur la map. Et du coup ça a gâché un petit peu l'immersion. Là je trouve que vraiment, mis à part si on fait un petit peu abstraction des graphismes, tu pourrais y jouer sans problème.
Franchement, c'est un jeu qui a très très bien vieilli, je trouve.
Après, c'est juste les...
Oui, carrément.
Ce qui choque le plus aujourd'hui, c'est les animations d'époque. Oui. Mais mis à part ça, voilà.
Quoique, honnêtement, on en parlera tout à l'heure, je trouve ça mieux animé que Shenmue. Hein, mais... Bon, messieurs, on va enchaîner sur un jeu, ma foi, qui m'intéresse pas mal, mais que je sais que je n'achèterai pas quand il sortira, mais vous allez voir pourquoi. C'est Remnant of Ashes. Alors, pourquoi je vous en parle? Bah, tout simplement parce que c'est Dark Souls avec des flingues, hein. Je veux dire, tu vois le jeu tourner, c'est Dark Souls, hein. T'as une barre de stamina, t'as des fioles d'estus, quand tu vas au feu de camp, ça te recharge tes fioles d'estus, voilà. Très clairement, ils se sont inspirés de Dark Souls. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que, pour le coup, donc on est dans un TPS. Et c'est pas, tu sais, un TPS où tu vas te mettre en couverture, tu vas te faire caca dessus et
ouais.
Tu vas attendre que les mecs arrivent, quoi. C'est un TPS où il faut être constamment en mouvement, parce que t'as pas vraiment de couverture, t'as quelques endroits où tu peux te planquer, mais ça se dure jamais longtemps, et en général t'as des mecs qui arrivent derrière toi, etc. Il faut savoir que le jeu génère l'adversité que tu vas avoir en face de manière procédurale, c'est-à-dire que si tu t'en sors bien, il va générer plus d'ennemis, etc. Donc ouais, il va jamais vraiment te laisser tranquille, quoi, entre guillemets. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et au départ, tu sais, ça m'a fait un peu peur parce que je me disais, pour un TPS déjà, c'est un peu mou du cul, hein, on va pas se le cacher.
Bah, et puis de ce côté-là, ça respecte surtout... Dark Souls.
Oui, non, mais sauf que ce qui peut passer dans un jeu corps à corps ne passe pas très bien dans un jeu de tir à la troisième personne, parce que forcément dans un jeu corps à corps, tu sais, t'as tous les feedbacks que tu peux avoir quand t'es au cac, quoi. Ouais, je veux dire, quand t'as le mec, il arrive, il te tape dessus, tu te défends, tu pars avec le bouclier, etc. Enfin, t'as une nervosité que t'as pas dans un jeu où t'es à distance. Donc du coup, si t'as pas cette nervosité là, ça pose quand même un petit souci. Mais j'ai été rassuré à partir du moment où t'as commencé à avoir du peuple sur la carte. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu commences à exploiter les mouvements du personnage. Parce que contrairement à Dark Souls, le personnage est quand même assez mobile. C'est-à-dire que par exemple, tu peux passer par-dessus un obstacle, tu vois, pour sortir rapidement d'une pièce, par exemple. Tu peux faire une espèce de glissade en courant pour te mettre derrière un couvert, etc. Il y a vraiment une palette de mouvements qui est assez intéressante. Et pour le coup, quand tu commences à avoir du monde qui arrive de partout, c'est-à-dire derrière toi, sur les côtés, et ainsi de suite, tu peux très rapidement te retrouver encerclé, en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est un jeu où il faut savoir se replier, où il faut utiliser les mouvements. Quand, par exemple, t'as des sorties qui sont bouchées, bah, c'est pas grave, je vais sortir en passant par la fenêtre. Il y a vraiment une mobilité qu'il faut avoir, que je trouve intéressante. Ensuite, il apporte quand même deux, trois petites nouveautés que je trouve intéressantes à la formule. C'est-à-dire que t'as pas le système de leveling obscur typique de From Software, si tu vois ce que je veux dire, TH. C'est-à-dire que j'augmente des stats, je sais pas trop ce que ça fait, et voilà, advienne que pourra. Non, là, et pour le coup, ils ont plutôt importé ce qu'on voit de manière très classique dans les FPS et les TPS ces dernières années, c'est-à-dire quand tu vas augmenter de niveau, tu vas débloquer des perks, tout simplement. Je trouve ça intéressant d'implémenter ça dans un jeu, entre guillemets, à la Dark Souls. Et ensuite, il y a tout un système de customisation des armes qui vont avoir des effets supplémentaires. Un peu comme dans un Path of Exile, vous savez, où dans Path of Exile, tu mets des matériaux dans tes armes et ça va te débloquer des pouvoirs. Ben là, c'est un peu la même chose. Tu vas mettre, par exemple, un truc qui va te permettre de soigner, de faire un effet de zone, qui va permettre de soigner tes alliés aussi. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que en fonction des modes que tu vas mettre sur ton arme va changer d'aspect. Donc, vous voyez, c'est assez cool. Et en plus, t'as pas vraiment de système de classe comme dans un Souls, c'est-à-dire que à un moment donné, si tu veux récupérer certains perks d'autres classes, parce qu'il y a des archétypes de départ, si vous voulez, avec certains perks disponibles, mais ouais, plus tard dans le jeu, tu pourras débloquer des perks qui a priori appartiennent à d'autres classes. Et c'est ça qui est cool dans ce type de jeu, c'est faire des builds qui sont cohérents, etc. Ça, plus l'aspect je customise en fonction du matos que je mets sur mon équipement, il a pas le même aspect. Genre, il montrait, il y a certains modes, et si tu les mets ton arme, elle va avoir plutôt une apparence démonique, tu vois, un peu chelou. Si tu mets un autre mode, ça va être plus côté steampunk, etc. Enfin, c'est assez cool.
Aïe, la fashion soul, quoi.
Tout à fait. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Et ce, d'autant plus que autre innovation que je trouve intéressante, c'est un jeu qui est conçu pour être joué à plusieurs. Et il va y avoir du friendly fire. Ah. Que ce soit du côté des ennemis ou du vôtre.
D'accord.
Donc forcément, vu qu'il y a du friendly fire, ça implique de communiquer entre les potes, ça entraîne aussi, je pense, des fous rires par moment où t'as ton pote qui te tire dessus, etc. Bon, ça, c'est quand tu joues avec tes potes, parce que quand tu joues avec des étrangers, par contre, là, ça t'insulte, etc. Bon, voilà, donc personnellement, j'éviterai le pick-up, hein, si vous
la
voulez.
La bonne ambiance.
Là, par contre, où le bas blesse, en tout cas, tout du moins pour ce qui me concerne, c'est que c'est un jeu à génération procédurale. Et pourquoi je pense que c'est là où le bas blesse? Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça, hein, la génération procédurale. Et moi d'ailleurs, quand je joue à un roguelite, vous savez que ça me dérange pas plus que ça. J'apprécie assez quand c'est bien fait. Le problème, c'est que moi, pourquoi j'aime bien la génération procédurale dans les roguelites? Parce que les roguelites, c'est des jeux qui, par essence, essayent de renouveler une expérience à chaque partie, en fait. Et qui, du coup, pour faire ça, renouvelle tout le temps le bestiaire que tu vas rencontrer, te propose 36 000 armes que tu vas pouvoir essayer, etc. Pour pas que tu te lasses, en fait. Et là, le problème, c'est que, un, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de variété dans les armes que tu vas récupérer, etc. Enfin, en plus, il n'y a pas vraiment, tu sais, ce côté, je vais looter une arme n'importe où et je vais changer toutes les 5 minutes d'armes, en fait. C'est pas du tout l'esprit du jeu, quoi. Pour le coup, on est vraiment dans un côté très fixe, un peu à la Dark Souls, où tu vas customiser ton arme, etc. Il y a un petit côté répétitif, à mon avis. Bon, après, tous les jeux sont répétitifs, mais là, pour le coup, je sens qu'on va vraiment le sentir passer, tu vois. Et ça me fait un peu peur. Et surtout, moi, mon problème avec la génération procédurale, c'est que souvent, j'ai l'impression que c'est un cache-misère. Et là, vraiment, j'ai l'impression que c'est le cas, quoi. J'ai l'impression que ça fait un peu, bon, on savait pas trop quoi faire en termes de level design. Du coup, on va faire un jeu procédural pour que ça se renouvelle. Mais bon, cacher un peu la misère parce que fondamentalement, faire des jeux intéressants d'un point de vue level design, on sait pas trop faire, tu vois. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, en tout cas, parce que quand tu regardes les maps qu'ils ont fait, honnêtement, les mecs, c'est pas ouf, quoi. Enfin, tu sens que on a collé des bouts de map ensemble, etc., et que, ok, ouais, ça te fait un niveau, quoi. Et que tu tournes un peu en rond, parce que le level design, il est conçu un peu n'importe comment, quoi.
Bah après, ça, c'est, il y a les pour et les contre, vis-à-vis du level design qui soit linéaire, ou, on va dire, procédural. Pour moi, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. C'est-à-dire que un level design qui est travaillé et fini en soi, il peut être intéressant s'il est très bien travaillé pour ta première partie. Mais une fois que t'as fini le jeu avec un premier build et que tu veux le refaire, le level design, il va jamais changer. Donc, il y aura plus cet effet de surprise.
Oui, mais par contre, il y a un côté, tu sais, j'optimise ensuite quand tu connais le level design.
Après, là, ce qui est intéressant, dans ce type de jeu-là, je pense qu'ils ont voulu faire ça aussi pour que chaque partie ce soit une nouvelle découverte. C'est-à-dire que t'es pas dans des chaussons à chaque fois. Mais bon, moi, personnellement, je préfère un level design qui soit fini en une fois et qui soit très bien exploité qu'un level design qui peut amener des certains problèmes. Au moins ils essaient d'innover, c'est-à-dire que là ils te proposent un TPS, voilà, donc Dark Souls c'est plus basé sur le corps à corps et là c'est des combats à distance, donc ils essayent quand même d'incorporer ce genre de choses là.
Et puis ce qui est intéressant aussi dans un TPS, je trouve, c'est l'aspect, tu sais, gestion des munitions. Mmh. Alors t'as des armes au corps à corps, mais très clairement le jeu n'a pas été conçu pour que tu puisses te taper au corps à corps, quoi. Surtout quand tu vois certains boss, t'as pas envie d'aller au corps à corps, quoi. Mais pour le coup, le moment où tu te retrouves à poil parce que t'as plus de munitions et où tu dois gérer des mobs pour qu'ils droppent des munitions, etc., je trouve ça plus intéressant que le côté usure des armes qu'on avait dans Dark Souls et qui finalement servait pas à grand chose, quoi.
Ouais, ça peut aussi amener un petit côté survie qui a fait la réputation des survival horror. S'il y a une bonne gestion des munitions que le personnage doit faire, ça peut ajouter aussi une tension supplémentaire. Et que par exemple, quand t'as plus de balles, et bah t'es obligé d'avoir ton arme de corps à corps, ou c'est une arme en fait, on va dire, qui est plus là en soutien et en dernier recours, que une arme que tu vas utiliser le plus souvent. Et ça, ça peut ajouter justement cette petite dose-là d'imprévu. Après, voilà, pour vraiment avoir un avis définitif sur la chose, il faudrait y jouer vraiment en profondeur pour déjà se faire une première impression sur l'aspect procédural, parce que c'est toujours ça le problème quand on parle de procédural. C'est qu'il y a le bon procédural et le mauvais procédural. On peut pas vraiment le savoir sans avoir mis les mains sur le jeu, quoi.
Ouais. Bon, par contre, au dernier point, l'interface, elle est dégueulasse. Voilà. Ah, ça, pour le coup, ils sont bien inspirés de Dark Souls. Hein, c'est vraiment de la merde.
Ça reste cohérent avec Dark Souls, je le répète. Ils sont inspirés jusqu'au bout.
On va enchaîner avec Gridfall. Alors là, pour le coup, pourquoi j'ai mis à la suite de Remnant of Ashes? Parce que c'est l'anti-Remnant of Ashes, quoi. C'est-à-dire que, autant d'un point de vue... tu sais, innovation sur les mécaniques, etc. J'ai pas vu grand-chose, quoi. Enfin, ça a l'air... tout ce qu'il y a plus classique, hein, je veux dire, c'est un RPG, alors fait par Spiders, hein, les petits français. T'as ton équipe, etc. Tu vas aller te taper avec des mobs, la progression a pas l'air de réinventer la roue, etc. Bref, ça a l'air classique, sauf sur un point, la direction artistique, l'univers. Mmh. Alors que Remnant of Ashes, justement, là pour le coup, on est dans du post-apo avec des démons, etc. Ouais, d'accord, ok. Là... on va être dans un univers inspiré du XVIIe siècle, de la colonisation de l'Amérique, avec des colons qui débarquent sur une nouvelle terre, etc., où t'as déjà des peuplades qui sont sur place, où ça va pas forcément bien se passer avec les natifs, hein, et où surtout tu as créatures, des divinités sur place qui sont un peu étranges, etc. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce jeu, c'est ce côté un peu inédit, quoi, dans la direction artistique. Enfin, moi, des jeux qui ont ceci là, à part peut-être Fable.
Ouais.
J'en ai pas vu beaucoup, quoi.
La direction artistique me rappelle beaucoup celle de Assassin's Creed 3 qui se passait aux États-Unis justement.
Ouais.
Où il y avait cette lumière et ce côté très brumeux. Et ce qui est intéressant avec Spider, en fait, c'est un studio qui a toujours fait, on va dire, entre guillemets, du double A. Mais là, je trouve que graphiquement, parce qu'ils ont pas un budget énorme non plus, ils arrivent quand même à faire des choses pas mal. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis même, tu l'as dit aussi, l'époque dans laquelle se situe le jeu, même si c'est un univers fantasmé, mais on va dire à peu près, nous, ça correspondrait au 17e, 18e siècle, avec des démons et tout, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Généralement, on a des choses très médiévales, soit on a du futuriste, c'est assez rare, donc je pense qu'ils ont quelque chose à apporter, puis en même temps, là, ça pourrait être intéressant que, justement, il y a cette critique qui soit faite aussi vis-à-vis des colons, et voir ce que ça peut apporter. Surtout que c'est fait par des Français, je pense qu'ils vont pas se priver pour critiquer ça, quoi.
Morgane, quelque chose à ajouter?
Ouais, moi ça me parle aussi, pareil, hein, très attiré par la direction artistique, peut-être un petit peu moins par le système de jeu, parce que bon, c'est plutôt classique, moi c'est pas trop le genre de jeu auquel je joue, mais quand même à surveiller, parce que ça fait plaisir de voir des développeurs tester, quoi, de sortir un petit peu des sentiers battus, même si ça reste sur des rails assez connus en termes de gameplay. Donc, moi ça m'intéresse, je regarderai ce que ça va donner en termes de test, du coup, par la en septembre prochain, parce que ça sort bientôt, l'air de rien.
Ouais, d'ailleurs, Remnant of Ashes, 20 août, et surtout ce petit jeu, donc, en septembre. Soit dit en passant, moi qui n'innove pas, ça me dérange pas, Spiders, parce que je sais que, pour avoir joué à certains de leurs jeux, quand ils essaient d'innover, ça se passe pas forcément très bien, donc.
D'accord.
Je préfère, tu sais, qu'ils soient sur des bases qu'ils connaissent, qu'ils essaient de faire quelque chose de solide, plutôt qu'ils se dispersent dans tous les sens et que ça donne pas grand chose, quoi, au final.
Pour rappel, c'est eux qui ont développé The Technomancer, c'est leur dernier jeu. Ils sont aussi derrière Overworks and Men, par exemple, et Bound by Flame.
Donc ils étaient tous des jeux un peu pétés, on va pas se le cacher. Donc j'espère que pour le coup là par contre vraiment là où je les attends tournant c'est sur la finition parce que c'est sur ça qu'ils avaient un souci. Donc bon, on espère que de ce côté-là ça va évoluer. Bon, on va enchaîner sur une news de Watch Dogs Legions. On se posait la question, mon cher ATH, il y a pas si longtemps, de savoir comment ils allaient faire au niveau des dialogues, etc. Parce que bon, je rappelle, Watch Dogs Legions, on va pouvoir recruter n'importe quel PNJ. Donc du coup, on se disait, mais putain, par exemple, ne serait-ce que les cutscenes, comment ils vont faire au niveau des voix, quoi. Est-ce qu'on va avoir tout le temps la même voix, ou est-ce qu'on va avoir un fichier voix gigantesque, etc. On a commencé à avoir un début de réponse, à savoir que, en gros, ils vont utiliser une technologie qui va moduler la voix des acteurs qui vont enregistrer les dialogues pour faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas, déjà, la voix de l'acteur. Et surtout, ils vont enregistrer plusieurs fois les dialogues en changeant certains mots, etc. Et le système va moduler également les dialogues en fonction du personnage que tu as choisi, etc. Donc, pour le coup, en fait, ça fait un mélange qui va être assez intéressant. D'un côté, on va prendre des bouts de dialogue, on va les assembler. De l'autre, on va moduler la voix pour avoir un rendu différent. Et ça va faire des scènes de dialogue, etc. Et ça, mon cher ATH, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est le genre d'innovation qui nous font plaisir chez Game Info, n'est-ce pas?
Bah pour une fois qu'Ubisoft innove de ces derniers temps, ça fait plaisir quoi déjà. Et puis surtout, comment ça pourrait être utilisé par la suite dans d'autres jeux. Parce qu'on s'est toujours posé la question de comment on pourrait raconter une histoire, mais de manière différente. Et bah peut-être que ça va être un des premiers éléments de réponse. J'attends de voir comment ça va être utilisé dans le jeu, si ça va être intéressant. Donc ça va être une première ébauche, donc je m'attends pas forcément à ce que ça soit parfait dès le début, mais au moins que si le résultat est déjà convaincant, ça pourrait donner vraiment des très bonnes pistes à suivre dans le jeu vidéo. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, le jeu vidéo, il stagne pas mal niveau innovation. Le jeu vidéo avance vraiment trop technologiquement en termes de graphisme, mais le reste reste toujours cantonné à des carcans assez old school. Là, il y a des innovations qui arrivent un petit peu, justement avec par exemple des Zelda Breath of the Wild, où ils te proposent d'avoir un moteur physique totalement pété. T'imagines un jeu qui mélangerait Breath of the Wild avec un truc, des dialogues à la Watch Dogs, ça pourrait vraiment être intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, justement, dans cette annonce, c'est que, entre guillemets, ils parlent de 20 scripts différents, dont certains auront des nuances à l'intérieur, donc du coup ça fera 20 scripts avec plein de petites nuances à l'intérieur qui vont se mettre en place. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir par exemple le joueur A qu'est-ce qu'il a eu comme réaction et le joueur B qu'est-ce qu'il a eu comme réaction lors d'une discussion. Et quand on parle de jeu vidéo, bah le plus important pour nous, on va dire, c'est quand on partage et quand on échange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément la même expérience quand on joue à un jeu. Et ça peut être un truc vachement cool en fait. Et du coup, ouais, voilà, je suis curieux du résultat en tout cas.
Qu'est-ce que j'ai ajouté, Mandren?
C'est toujours un concept qui m'intéresse. Maintenant qu'on a des petites réponses sur des questionnements qu'on avait au sortir de l'E3, je commence à comprendre à peu près où est-ce qu'ils veulent en venir. Maintenant, reste la réserve Watch Dogs, en fait. Hein.
C'est ça, ouais.
Est-ce qu'ils vont réussir à dépasser un petit peu les limites de la série, à voir quand ça sortira, hein. Rappelons que c'est pour le 6 mars 2020, hein, donc c'est pas pour tout de suite encore.
Et puis pour une fois que Ubisoft innove, hein, on va pas les décourager de le faire.
Ouais,
surtout pas, quoi, parce que putain... C'est suffisamment rare que pour le souligner, quoi. Continuez comme ça, Ubisoft, c'est bien.
Et surtout, c'est pas une licence Tom Clancy pour une fois.
C'est ça. Bon, on va enchaîner sur une escroquerie, messieurs. Je veux bien évidemment parler de Shenmue 3. Alors pourquoi je parle d'escroquerie? Parce que pour moi, quand tu promets des choses à tes backers et que tu le respectes pas, bon voilà, au minimum tu as menti. Quand tu fais, par exemple, des sondages pour savoir si les gens sur leur campagne Kickstarter veulent une copie Steam du jeu, c'est que a priori le jeu il va sortir sur Steam. Hein. Certes, tu l'as pas affiché en gros en logo sur ta campagne, mais ça veut dire que le jeu il va sortir sur Steam. Et puis même à l'époque où il y a eu la campagne Kickstarter, je veux dire, les piquets sortent, ça n'existait pas, donc tout le monde partait du principe que un jeu qui sort sur PC, il sort sur Steam.
Voilà. Mais il l'avait anticipé, Tyran, il l'avait anticipé.
C'est ça. Et donc, on a eu une annonce, il y a pas si longtemps, durant l'E3, que Shenmue 3 serait exclusif à Epic Games Store. Bon, exclusivité temporaire, ils sont pas suicidaires non plus, hein, évidemment. Mais, je suis baudeur qu'ils avaient besoin des sous d'Epic, hein, pour terminer le jeu. Vu la gueule du jeu, ça se comprend. Moi, en fait, moi, j'ai un souci, si vous voulez. D'un côté, je peux comprendre qu'un développeur indépendant se dise « Je vais sortir mon jeu en exclusivité sur Epic Games Store parce que j'ai besoin des sous. » J'ai pas d'hostilité de principe, si tu veux. C'est juste que j'achèterai pas leur jeu, mais je comprends. J'achèterai pas leur jeu pourquoi ? Au risque de titiller certains, je suis désolé. Si Epic veut que j'achète sur son store, ils ont qu'à faire un store qui fonctionne, qui a des features qui sont intéressantes, et qui surtout n'essaie pas de me forcer la main. Parce que moi, c'est vraiment ça qui me sort par les trous de nez, c'est que, vous voyez, Epic essaierait pas de me forcer la main, là, ça se trouve, j'aurais déjà acheté des jeux chez eux. Mais là, j'ai l'impression qu'en gros, t'as une boîte qui a un store de merde, et qui te dit, mais de toute façon, j'ai fait un store de merde, mais c'est pas grave. Tu vas l'utiliser quand même, même si t'en as pas envie. Eh ben non, j'utiliserai pas ton store de merde. Bon, je vais pas refaire tout le procès d'Epic ici, c'est pas le sujet, mais moi, j'estime que on peut avoir des bonnes raisons de ne pas vouloir acheter des jeux sur l'Epic Game Store, et après tout, à la limite, c'est même pas les oignons des créateurs du Kickstarter de Shenmue. C'est-à-dire que moi, je m'arrête à un concept simple. Kickstarter, c'est quoi ? C'est une relation de confiance. C'est-à-dire que tu es un développeur qui arrive, qui dit « Moi, j'aimerais créer ce jeu. Je voudrais faire ça, 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 et en échange, vous aurez ça, ça, ça. » C'est le contrat. Alors peut-être qu'en cours de route, il y a des choses qui vont sauter, d'un point de vue game design, par exemple. Le développement de jeux vidéo, c'est pas une science exacte. Par contre, je suis désolé, la distribution, c'est autre chose. N'importe qui peut sortir un jeu sur Steam. C'est pas comme si t'avais un système de validation où à un moment donné, le mec qui avait promis son jeu sur Steam allait dire « Ah bah non, finalement, je peux pas le sortir sur Steam parce que Valve m'a dit non. » Ça marche pas comme ça. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas sortir le jeu sur Steam. La seule excuse, entre guillemets, qu'ils ont, c'est qu'ils voulaient le pognon, c'est tout. Et là où je trouve ça malhonnête par rapport à Shenmue, c'est que dans le post Kickstarter qu'ils ont fait, ils reconnaissent même pas qu'ils ont fait ça pour l'argent en plus. Ils te sortent un discours bullshit de marketeur en mode « Oui, on a discuté avec Deep Silver et on a estimé que ça serait la meilleure expérience sur PC pour tous les joueurs. »
Mais bien sûr.
Quand même, un store qui a même pas de panier pour acheter... le genre de feature basique que t'as sur un site de e-commerce, tu vois, même ça, ils ont pas. Franchement, je crois qu'il n'y a que le store de Microsoft qui est à peu près aussi pourri. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle parce que la mise à jour de Microsoft récemment, c'est un peu de la merde. Hein, mais on réévoquera ça un autre jour. Hein. Mais te fous pas de ma gueule. Sois un peu honnête. Tu voulais l'argent, t'en avais besoin parce que vu la gueule du jeu, visiblement, le budget, il a serré crack, tu vois. Voilà, t'avais besoin de l'argent d'Epic, point. On va pas se cacher derrière son petit doigt là, à faire semblant que c'est pour autre chose. Ce qui me pose problème, là, en fait, c'est le manque d'honnêteté. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, Kickstarter, c'est une pure relation de confiance. T'as un mec qui te fait une promesse, tu le crois sur parole, tu lui donnes de l'argent. Là, ce qu'ils ont fait, en plus, c'est que non seulement ils n'ont pas respecté leur promesse auprès de leur backer, mais en plus, ils ont fini de pourrir le système. Je dis bien fini parce que, bon, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres projets avant qui ont foutu le système en l'air. Hein. Mais ils ont fini de foutre en l'air le système. C'est-à-dire que là, tu vois, on a un des projets qui allait récolter le plus d'argent sur Kickstarter, dans le domaine du jeu vidéo, qui a dit fuck à ses backers. Est-ce que vous croyez sérieusement que ces gens-là, ils vont avoir confiance dans le crowdfunding pour la suite ? Bien évidemment que non. Non seulement ils ont trahi leurs backers, mais en plus, ils ont gâché le système pour tout le monde, quoi. Tout simplement. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça valait le coup hein, de faire un gros doigt d'honneur à vos backers. J'espère.
Non, mais moi, ce que je trouve hallucinant quand même, c'est que déjà, Shenmue, à la base, c'est pas un jeu ultra populaire. C'est un jeu qui... À sa sortie, c'était une révolution graphique et une révolution dans le jeu vidéo, mais finalement, a pas parlé à beaucoup de monde, parce que déjà, ce style assez lent, et puis les arts martiaux, c'est pas voilà un truc qui parle au plus grand public. Mais j'aurais préféré vraiment qu'il se donne la chance d'atteindre son objectif et qu'on puisse avoir Shenmue 4, parce qu'apparemment, avec celui-là, déjà, ça va pas être la fin. Donc, si on veut voir la suite, il faut que le jeu se vende. On me dira que l'exclusivité dure un an. Soit. Ça dure un an, mais quand même un an, on sait très bien que les ventes d'un jeu se font dans les premières semaines de sa sortie, puis après ça y va de manière très décrécive, avec tous les jeux indépendants, toutes les sorties qui arrivent, on est constamment harcelé de nouveaux jeux, encore plus qu'à l'époque, et ouais, c'est vraiment très agressif aujourd'hui. Un an après, quand le jeu va arriver sur Steam, il y a vraiment les gens qui auront pas eu envie de faire le jeu comme toi Tyran ou qui vont attendre vachement longtemps.
C'est ce que je dis aux gens, tu sais, qui parce que j'ai eu des discussions, tu sais, sur les forums avec les gens où j'expliquais tout simplement pourquoi, parce que il y a un côté très caricatural, tu sais, où on dit oui, vous êtes des fans de Steam et c'est pour ça que vous voulez pas acheter sur Epic Game Store, mais putain les mecs, s'il vous plaît quoi. mes jeux, j'achète en priorité sur GOG, j'ai même un abo en ce moment chez Xbox quoi. On peut pas faire plus pas Steam que moi, surtout qu'en plus je passe mes journées à critiquer Steam. Donc voilà quoi. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que on est à une époque où t'as plein de jeux qui sortent et même si j'attends un jeu, je suis dans une situation où j'attends plein de jeux. Entre le jeu que j'attends, mais qui va sortir sur un store qui me casse les couilles, et le jeu que j'attends, mais qui va sortir sur un store que j'aime bien, ou en tout cas que je tolère suffisamment pour prendre des jeux dessus, à votre avis, lequel des deux je vais prendre ? À un moment donné, faut arrêter d'être con, quoi. Je suis désolé, je connais pas de jeu, à moins vraiment jeu super exceptionnel, etc., qui me donne envie d'aller acheter sur un store qui est pourri, quoi. Je suis désolé. On est à une époque où il y a trop de jeux et où il faut commencer à faire le tri. Et oui, entre autres, un store qui me casse les couilles, ça peut être un critère de tri. Point. C'est tout, hein. On va pas chercher midi à 14h.
Oui, puisque là, on parle de store. Donc, ça, on va dire encore, c'est à l'interprétation de chacun, s'il a envie d'aller sur un store ou pas. Moi, en tout cas, je sais que, voilà, bah, ça sera sur PlayStation 4. Mais, tu vois, aujourd'hui, je suis dans l'attente du jeu, mais c'est pas une attente, genre, il faut absolument que je joue au jeu. C'est-à-dire que Shenmue 3, j'y jouerai certainement. Mais, voilà, si je vois que le jeu, c'est de la merde ou quoi que ce soit, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, je suis prêt à, tu vois, prendre le jeu d'occasion. Tu vois, juste pour dire, ok, j'ai pris le truc, juste pour le scénario, entre guillemets, comme si c'était un bouquin. Pour continuer mon histoire, mon périple avec Ryu, mais je m'attends pas vraiment déjà à quelque chose de fou, et je suis prêt, tu vois, à attendre même encore, voilà, que le jeu sorte en occasion, qu'il soit bradé à 10-5 euros, parce que, franchement, le jeu pue. Mais il pue dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que c'est une puanteur magnifique, quoi, qu'on a là.
Ouais, parce qu'on a eu des vidéos qui sont sorties durant le 3, et on va pas se le cacher, messieurs, enfin, c'est pas ouf, quoi. Déjà, moi, je trouve qu'il y a un gros problème sur la direction artistique. Enfin, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a de direction artistique, c'est ça mon souci. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'on a pris des assets à droite et à gauche, qu'on a assemblé ça sur un moteur récent, et paf, ça te fait un jeu. Enfin, je trouve qu'il y a un manque de cohérence, déjà, sur la partie graphique, premier point. Et ensuite, mon Dieu, mais entre les animations balayées dans le cul et les personnages qui ont des têtes de monstres, mais au secours,
ouais,
mais quoi,
c'est vraiment
ça fait pas rêver, quoi, ça donne pas envie. Franchement, moi, le jeu sur Dreamcast, il me fait plus envie que ça, il y a plus de cohérence graphique, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Morane, pour le coup, parce que, attends, chez moi, à la limite, on va dire, on est des fans des premiers épisodes, en tout cas, c'est des jeux qu'on a appréciés, on est peut-être pas forcément objectif, que ce soit en bien ou en mal. Donc on va demander un œil un peu extérieur. Toi, t'en penses quoi pour le moment de ce que t'as vu, quoi? Parce que
c'est extrêmement choquant, en fait. Je pense à tous ces gens qui ont backé, parce que quand même, hein, il y a le Kickstarter, il a fait 6,3 millions de dollars. Et je pense que ces 6,3 millions de dollars, ils ont été donnés de bon cœur par des gens qui s'imaginaient avoir prochainement un jeu au moins d'une classe visuelle d'un jeu de génération actuelle.
Non, moi je pense pas à
Morgan,
ça, par contre. Excuse-moi de te couper, mais moi je pense vraiment que les gens qui ont donné ce pognon à l'époque s'attendraient à un jeu rétro mais qui sortira aujourd'hui. Et là le problème, c'est qu'on a un jeu qui se veut photoréaliste mais qui est ultra rétro. Et en fait, on a eu l'inverse de ce qu'on voulait. Ils auraient dû garder les graphismes tels qu'ils étaient sur Dreamcast. Et bon, c'est juste le jeu, comme si ça aurait été un DLC du 2, avec un petit peu plus d'amélioration. C'est-à-dire,
ouais, genre, tu vois, la gueule du 2, mais avec des animations peut-être un peu plus chiadées, tu
voilà,
vois, ce genre de choses, quoi.
Avec plus de personnages affichés à l'écran, parce que justement, les consoles et les PC d'aujourd'hui permettent ce genre de choses-là. Mais vraiment, de rester sur un truc qu'on connaissait à l'époque, parce que quand on voit le résultat, en fait, ce qu'on a sous les yeux, on se dit que c'est clairement une trahison. Mais excuse-moi de t'avoir coupé, je te laisse poursuivre.
Ouais, mais du coup ça tient plus, mais en fait je pense qu'il y a un côté extrêmement déceptif tout de même de voir ça arriver alors que t'as backé certains pour cher, je suppose. Enfin, techniquement c'est quand même à la rue, quoi. Je reviens sur ce que tu disais sur la direction artistique, Tyran, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même Ryo, le visage de Ryo, il est inexpressif au possible, et tu te dis, mais franchement, enfin, si c'est pour faire ça, est-ce que c'était vraiment la peine de faire ça? Enfin, c'est assez... Moi, j'ai pas l'affect que vous avez avec cette licence, et c'est vrai que... Alors certes, les démos de gameplay, ça montre effectivement du Shenmue, hein, mais tout l'habillage autour, c'est ni fait ni à faire, quoi. Donc, c'est... Moi, je me mets à votre place, j'aurais le seum, quoi.
Après, moi, si tu veux, personnellement, je suis quelqu'un qui a fait le deuil, en fait. Je suis pas
moi
quelqu'un
aussi,
qui était là, se dire, oh putain, il faut qu'il sorte chez nous trois, franchement, il faut absolument qu'il le sorte, c'est pas possible, quelle déception, etc. Je veux dire, moi, ça fait longtemps que je suis parti du principe qu'on n'aurait jamais la fin de l'histoire. Je suis toujours pas convaincu qu'on l'aura un jour, parce que quand tu vois Yuki qui raconte que même une fois Shenmue 3 terminé, on sera à 40% de l'histoire qu'il veut raconter... Et quand tu vois le gros fuck qu'ils viennent de faire au backer, le court-termisme du move là, ça aussi je le comprends pas, tu vois. Parce que les mecs, votre jeu là, je suis désolé, il va pas se vendre. Si les fans de Shenmue étaient si nombreux, ça se saurait. Et ton jeu là, en dehors d'un fan de Shenmue, qui va l'acheter? Non mais sérieusement, qui va acheter ce jeu là? Je veux dire, le mec qui est vaguement intéressé par Shenmue, à la limite, il va regarder, je sais pas, peut-être Yakuza ou Judgment ou ce genre de truc. Alors même si, encore une fois, j'insiste, c'est pas tout à fait la même chose, ne serait-ce qu'en termes de système de combat, etc. Mais disons que Yakuza, actuellement, c'est ce qui s'en rapproche le plus.
Bah, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent des deux séries. Par exemple, le fait de pouvoir se balader dans une ville comme ça.
Un petit peu en format réduit, tu vois.
Voilà, dialoguer avec les personnages. Après, c'est pas la même chose. Shenmue, c'est une enquête. Dans Yakuza, c'est plus un genre très cinématographique.
Et même Yakuza, c'est plus arcade, beat'em all, etc.
Oui, voilà.
Alors que Shenmue, c'est le système de combat de Virtua Fighter. Tu vois, c'est très technique, etc. Mais, je veux dire, le mec lambda qui n'a jamais joué à Shenmue, il va voir ça, il va faire non.
Ouais, et puis quand tu vois Yakuza, tu te dis, en fait, c'est Shenmue en mieux, parce que le système de combat, tu peux pas le savoir si t'as jamais joué à Shenmue ou que si t'as pas la mettre en main. Tu lui mets la vidéo de Shenmue 3. Et de Judgment qui va sortir là prochainement.
Ouais.
Mais attends, il y a un jeu qui a l'air sympa, et puis l'autre qui est moche et dégueulasse avec des animations de 2001. Bah, je prends lequel? Bah, je prends celui qui est plus intéressant. Et ce que je trouve vraiment déceptif, en fait, dans tout ce qui a été fait sur ce Shenmue 3, bon, comme tu l'as dit, moi aussi, j'ai fait mon deuil. Je suis arrivé à un âge de ma vie où je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus, genre, à une époque, il faut absolument que tu me sortes tel ou tel jeu, parce que, voilà, s'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu.
On a passé l'âge.
C'est ça.
On a grandi.
Tu vois, par exemple, Kingdom Hearts 3, ça fait depuis le mois de janvier que je l'avais. Vous savez très bien que j'avais parlé beaucoup avant dans les podcasts. C'était un jeu que j'attendais beaucoup. Et finalement, quand il est arrivé, tu vois, j'ai fait... tout ça pour ça, en fait, c'est, je me dis que finalement, tu vois, même pour Shenmue 3, quand je vais y jouer, genre, un peu blasé. Moi, je pense vraiment quand il y a eu un moment où il y a une licence ou une série qui arrive à un terme et qu'il y a plus rien à faire avec ou que son temps est passé, bah, faut aller sur autre chose. Et Shenmue, je pense vraiment que là, ça va être la déception et j'ai très peur que, bah, finalement, tu vois, les 40% du scénario, ça va être la seule chose qu'on aura et que, tu vois, moi, déjà, à la base, quand Shenmue 3, il a été annoncé, je pensais qu'il allait mettre un terme au scénario. Parce que je me suis dit que le mec, il aura jamais, il a eu cette chance-là au bout de 20 ans, il aura pas l'occasion une deuxième fois. Et finalement, quand tu vois ce qu'il a dans la tête et tout, bah, ça fait peur un peu, ce projet, c'est un projet ultra bancal. Voilà. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer, mais je suis pas très optimiste pour la suite, quoi.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne.
Bien sûr.
Ouais, allons-y.
On va terminer avec un grand moment de rigolade. Hein. Ce sont nos amis Epic et Electronic Arts qui se sont un peu ridiculisés, je crois qu'on peut dire ça comme ça, hein. Alors, pour le coup, c'est une histoire où on a plus retenu le rôle d'Electronic Arts que oui. Celui d'Epic, notamment à cause d'une petite phrase sur laquelle, bien évidemment, on va revenir, hein, faut pas déconner non plus. Alors, juste pour info, à la base, on a eu Epic et Electronic Arts qui ont été invités par le Parlement britannique dans une commission pour parler des loot box, entre autres. Ça parle aussi de la santé, du bien-être des joueurs, etc., ce genre de choses. Je rappelle qu'on est devant le Parlement britannique et qu'on est dans un pays où notamment le prince Harry a fait une petite pique sur Fortnite en disant que c'était un jeu qui était malsain, qui rendait captifs ses joueurs, etc.
Ouais.
Donc forcément, les parlementaires ont posé des questions par rapport à ça à Epic, ce genre de choses. Donc c'est une longue vidéo que je vous mettrai en lien de l'émission. Qui est assez poilante, hein, je vous avoue. Ça dure très longtemps, je crois que c'est 2-3 heures. Enfin, mais vous pouvez regarder le début, vous allez voir, c'est meilleur qu'un One Man Show. Parce que toutes les conneries qui te sortent au fur et à mesure, c'est quand même assez fabuleux. Vraiment, hier soir, je regardais ça, mais je me marrais tout seul comme si je regardais un sketch, quoi. Alors, comme je disais, malheureusement, on a retenu essentiellement la part d'Electronic Arts dans ce petit show, mais je trouve qu'Epic, quand même, n'est pas en reste. C'est-à-dire qu'en gros, d'un côté, on avait Epic où t'avais deux représentants qui étaient là et tu sens que les mecs étaient pas prêts, quoi. C'est-à-dire que très clairement, les gars, ils sont venus les mains dans les poches et à peu près à toutes les questions, ils étaient complètement déstabilisés parce qu'ils ont pas l'habitude qu'on vienne les bousculer comme ça. Et à côté, juste en face, t'avais Electronic Arts où t'avais deux représentants aussi et où tu sentais que bon, eux, voilà. Ils avaient été un peu plus scotchés, ils avaient un discours bien tout préparé, etc. pour chaque question à la con qu'on pouvait leur poser, ce genre de choses. Je vais m'attarder deux petites secondes sur la partie Epic quand même, parce que bon, la mauvaise foi a ses limites, hein. Il faut savoir notamment que moi, ce qui m'a choqué, c'est le moment où on leur demande, à leur avis, combien dépensaient les gens en moyenne qui jouaient régulièrement sur le jeu. Il faisait genre, honnêtement, déjà, c'est difficile de définir ce qu'est un joueur qui joue régulièrement, et on sait pas, voilà. On n'a pas trop donné sur ça, non, on sait pas. Ils ont cru qu'ils étaient face à des journalistes, tu vois, des bons vieux journalistes JV qui posent pas des questions qui fâchent. Sauf que juste après, t'as le parlementaire derrière qui leur dit très clairement, mais vous foutez de ma gueule. C'est un moment, tu sais, t'es là, ce petit caviar là, oh, que c'est délicieux, franchement, ah oui, qu'est-ce que c'est bon, quoi.
Mais pas la mentir, eux, ils s'en foutent de pas être invités au prochain Fortnite, au Battle Royale Tour, ou bien, tu vois, les prochaines exclusivités épiques. Donc, ils peuvent se permettre de leur dire ce qu'ils pensent. Alors qu'un journaliste, il sera plus invité au press tour, donc, c'est normal que le mec, il pose des questions qui fâchent. Et surtout que, à la base, même les journalistes qui vont tester les jeux sont pas là pour poser ce genre de questions là. Au bout d'un moment, quand tu arrives à être devant des députés et des parlementaires, qui se pose ce genre de questions, il y a un vrai problème de fond. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est directement concerné par ce type de pratique, mais je me dis que le mec, un joueur régulier de Fortnite, ou enfin, de tous les jeux de ce type-là, hein, parce que on dit Fortnite, parce que c'est plus gros, mais je cible tous les jeux qui ont des microtransactions, des lootbox à l'intérieur, parce que c'est-à-dire que déjà, tu payes le jeu, sauf pour le cas de Fortnite, et tu rajoutes encore de l'argent. La valeur finale d'un jeu sur FIFA 17, sur FIFA 18, des jeux qui sont sortis l'année dernière et il y a deux ans, combien ont apporté justement les microtransactions par joueur? Je pense qu'ils ont des moyennes, des statistiques là-dessus. Pourquoi on n'a pas de réponse?
Non, ils ont pas.
Ouais, c'est ça, oui. Les mecs, ils ont des statistiques sur tout et n'importe quoi. Et tu vas me dire qu'ils ont pas des statistiques sur combien tu les dépenses. Ça, c'est juste qu'ils veulent pas le dire parce que c'est choquant.
Ouais, c'est ça. Là où je trouve ça fabuleux, parce que, encore une fois, on s'est beaucoup arrêté sur le cas d'Electronic Arts, qui a fait preuve aussi d'une mauvaise foi absolue, mais que c'était plus maîtrisé. Mais là aussi, je trouve qu'Epic, ils sont pas mal quand même. C'est que il y a quand même un moment où, suite à une remarque d'un sénateur, qui lui disait qu'en gros, quand même, Epic, il se faisait quand même pas mal de pépettes avec Fortnite, où le mec répond « Je ne pense pas que ce soit exact de dire que Epic fait de l'argent avec les gens qui jouent au jeu. »
Ah, bah non, mais c'est du bénévolat, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis le Fortnite.
C'est exactement ce que lui a répondu le sénateur. Vous n'êtes pas un organisme de charité. Voilà. Vraiment, tu sens que les mecs sont complètement à l'ouest, ils savent pas où se mettre, mais comme ils peuvent pas répondre aux questions, ils sont bien obligés de sortir du bullshit en permanence et ils sont là tout le temps à bégayer. Je sais pas. Non, mais c'est pas vrai. Vous pouvez pas dire ça. Franchement, c'est pas juste. Franchement, je vous incite à aller voir l'interview. C'est succulent. C'est rare de voir un éditeur en PLS et j'avoue que là, franchement, je dégustais ça avec une petite cuillère. C'était vraiment fabuleux. Bon. On va s'arrêter sur le plat principal quand même, parce que c'est celui qui a fait le plus réagir et je comprends pourquoi. Parce que il se trouve que Electronic Arts maintenant se met à essayer d'appeler les lootbox différemment, parce que vous comprenez maintenant, lootbox c'est un mot qui est sale, tu vois. Apparemment, les lootbox c'est des mécaniques surprises. Maintenant, parce que tu comprends, si les enfants ils peuvent acheter des Kinder Surprise, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, je le rappelle, hein, juste au passage, les Kinder Surprise sont interdits aux États-Unis. Hein. Bon, pas pour des raisons de jeu d'argent, hein, je vous rassure.
La loot box de Kinder Surprise, putain, l'idée du siècle.
Donc, voilà, c'est le bullshit qu'ils avaient préparé, parce que là, tu sens très clairement que la nana, quand elle sort ça, bon, elle était prête, quoi. Tu vois, c'est le discours, il était réglé comme du papier à musique. Contrairement au gars d'Epic qui voyait flou tout le long de l'interview, elle a pas été déboulonnée. Hein. Elle te sort ça de manière très sérieuse et tout. Et là, je comprends pourquoi ça révolte les gens, parce que on essaie de manipuler le langage et tu sens qu'on prend pour un con, en fait. Surtout que ça n'a aucun rapport avec des Kinder Surprise, où je le rappelle quand même, hein, enfin, personnellement, je sais pas pour vous, quand j'étais gamin, le Kinder Surprise, c'était surtout le chocolat et pas pour le jeu de merde qu'il y avait à l'intérieur. Hein. Mais oui, déjà, premier point. Et en plus, mais la mauvaise foi, quoi. Est-ce que vous êtes sérieusement en train de comparer des jeux qui sont conçus pour te faire dépenser plus? Je rappelle tous les brevets d'Activision déposés pour faire en sorte, tu sais, qu'on mette les joueurs qui sont un peu noobs avec des joueurs un peu plus stuffés pour leur donner envie d'acheter du stuff. Je vous rappelle tous les brevets qu'il y a de déposés, tu sais, sur la manière de faire popper des trucs, etc., sur ton écran, pour t'inciter en permanence à acheter des trucs, etc. Enfin, j'ai pas le souvenir, quand j'étais gamin, que mon entreprise préférée de Kinder m'envoyait un email pour me rappeler « Hey, tu veux pas venir racheter un Kinder ? Hein ? Hein ? Tu veux pas racheter un Kinder ? Hein ? Hein ? Allez, quoi, le petit Kinder, là, le petit jouet à l'intérieur, le jouet collector, il y en a un sur un milliard, tu pourras l'avoir. Allez, allez, viens, jouer, viens. » J'ai pas souvenir de ça personnellement, mais peut-être que...
Mais voilà, tu sais que Kinder pourrait se faire des couilles en or en vendant, tu vois, ils enlèvent les petits jouets de merde, ils mettent juste un papier avec un code de téléchargement d'une skin d'une arme, ils font un partenariat avec Fortnite, les mecs ils deviennent milliardaires, quoi. T'as juste un code de téléchargement, c'est carton plein, enfin en tout cas dans les pays où ça peut se vendre. Mais moi je compare ça vraiment, tout ce qu'on a décrit depuis le début, au mécanisme de publicité. Parce que la publicité, on dit oui, ça marche pas. Tu penses vraiment, par exemple, qu'une entreprise comme Coca-Cola dépense des millions d'euros pour diffuser sa publicité pendant la finale de la Coupe du Monde si les mecs avaient pas étudié le cerveau humain pour voir comment les mécanismes de publicité fonctionnaient? C'est pour ça que je mets Adblock partout où je peux le mettre, que j'essaye de me protéger au maximum, parce que déjà, de un, ça me casse les couilles. Mais en plus de ça, bah ça pourrit en fait vraiment le jeu vidéo, parce qu'une arme qui est enlevée d'un jeu pour être disponible en lootbox et tout, bah ça crée justement un élément de gameplay en moins. Normalement, dans un jeu où t'es censé débloquer... telle ou telle arme en explorant l'univers, bah là, non, il faudra que tu dépenses de l'argent ou bien que tu attends telle ou telle heure pour revenir jouer à ton jeu, pour pouvoir débloquer la suite du jeu. Et moi, c'est ça qui me fait plus peur, mis à part aussi que le fait que voilà, il y a des gamins qui peuvent dépenser beaucoup d'argent et on sait pas, les mecs, soi-disant...
Ah non, ils savent pas, en fait. Hein.
Oui, non, mais ils savent pas ce que c'est qu'un joueur régulier. D'accord. Bah pour moi un joueur régulier, s'ils veulent une définition, je peux leur donner une, après chacun pourra donner sa définition ou pas, mais un joueur qui joue une heure par jour, c'est un joueur régulier. Voilà. Donc c'est-à-dire que si un mec joue plus de 7 heures dans la semaine, bah pour moi c'est un joueur régulier. Voilà. C'est juste que au bout d'un moment faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Il y a un mec qui joue au jeu, s'il se connecte plusieurs fois dans le mois et tout ça, c'est un joueur régulier. Commencez pas à chercher midi à 14h si vous voulez qu'un joueur...
Non mais en plus, on sait très bien pourquoi il va pas donner les chiffres. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui dépensent des dizaines de milliers d'euros dans ces jeux.
Oui, voilà. Les baleines, voilà, les fameuses baleines qui font
évidemment qu'il va pas donner les chiffres. Parce que c'est indécent. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h à épiloguer, tu vois. Ils savent très bien qu'ils font des choses indécentes, ils savent très bien qu'ils ont des choses à se reprocher. C'est pour ça que d'un côté, il y en a qui commencent à voir flou dès qu'on commence à leur poser des questions, et que de l'autre, il y en a qui te sortent un discours purement bullshit, bien carré, bien formaté, parce que si on commence à regarder sérieusement le sujet et qu'ils commencent à répondre sérieusement aux questions, ils vont pas être bien. Parce que là, pour le coup... Mais direct, il y a des gens qui vont voter des lois pour interdire ces pratiques-là vis-à-vis d'une certaine population. C'est tout. Morgan, juste, on va te donner la parole parce que depuis tout à l'heure, t'es chez moi à la mobilise et du coup, j'imagine que t'as des choses à dire quand même.
ouais, bon, en fait, le truc, c'est que dire de plus que ce que vous avez déjà dit. On sent très clairement que, comme tu le disais, chez Epic, on n'était absolument pas préparé à avoir ce genre d'adversité en face. Par contre, chez Electronic Arts, on sent que la langue de bois, on pratique. Hein.
L'expérience, mon cher, des années d'expérience.
En même temps, on a un maître Jedi dans le domaine. Donc
c'est ça. Non, mais c'est pas pour rien que Electronic Arts a une image de marque aussi faible. Hein. C'est que, bah voilà, exactement ce à quoi il se propose de faire. Donc bon, le côté, c'est des mécaniques de surprise. C'est la même chose qu'un œuf Kinder ou que je ne sais quoi. Bon, alors certes, effectivement, il y en a de plus en plus un petit peu partout et dans n'importe quelle zone de métier. Hein, quand tu regardes les jouets, bah ça existe depuis longtemps, mais aussi...
Soit dit en passant, Mandren, moi je fais partie des gens, par exemple, qui pensent que les booster packs pour les 4 magiques, c'est un problème, tu vois.
Oui, non, mais par exemple. Je suis d'accord avec toi. Et alors c'est vrai que moi, pour le coup, je fais partie des gens pour qui ce genre de truc, ça a pu être un plaisir. Je suis tout à fait conscient des problèmes que ça peut avoir. J'ai longtemps ouvert des boosters Magic et je sais que c'est un souci. Parce que, en fait, t'as aucune idée de ce que tu vas ouvrir. Alors certes, au début, ça peut être vécu comme un plaisir, mais au bout d'un moment, quand tu recherches un truc spécifique et que tu te rends compte qu'il va falloir que t'achètes 3 boîtes de 90 boosters à 90 euros l'une, tu fais... Non. Donc c'est
le problème
voilà.
Étant que certains gens ne disent pas non, c'est ça aussi.
Bien sûr, voilà. Non mais c'est, vous le savez, c'est un de nos chevaux de bataille. Le côté, il faut arrêter de profiter de la misère psychologique humaine en fait. Très concrètement, ce sont des entreprises qui font exactement tout ce qu'il faut faire pour profiter d'une faille dans le système cérébral, quoi. Alors certes, ça te fait plaisir à un instant T, mais tu t'en rendras peut-être un jour compte que, en fait, c'est une connerie. Mais moi, pendant ce temps-là, en fait, entre le moment où ça te fait plaisir et le moment où tu t'en rends compte, eh ben, je vais profiter de ta thune.
Et encore une fois, les gens, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sensible, parce que c'est un degré de sensibilité aussi, tu vois,
ouais,
que ça n'est pas le cas d'autres personnes. Et ouais, moi, je ne veux pas que pour mon plaisir égoïste, des gens se retrouvent dans la merde. C'est tout.
Exactement. Et on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais le fait que la mise en scène de l'ouverture de la chose, que ça soit une boîte, un booster, un truc, tout ça.
Tu vois les rituels d'ouverture de booster sur
bien
YouTube.
Bien sûr.
Mais quand il froisse le truc, tu sais, pour commencer à l'ouvrir, c'est déjà la jouissance, quoi. C'est.
Ouais, ouais. Et ça.
Je peux vous dire une chose, c'était juste pour dire qu'en fait, des études avaient été faites justement sur des gens qui ouvraient des boosters de cartes. Au moment, en fait, où ils ouvrent le paquet, il y a des mécanismes du cerveau qui te donnent cette impression d'être, enfin, qui te donnent du bonheur. Mmh. Et ouais, du coup, tu veux la retrouver le plus rapidement possible. C'est pour ça que les gens sont poussés à la surconsommation. Pour moi, c'est quelque chose qui est très dangereux. Déjà, j'ai parlé des problèmes de game design que ça pouvait apporter dans les jeux d'un point de vue purement gameplay. Mais en plus de ça, il y a pas de limite, en fait. C'est-à-dire que t'imagines, il y a un mec qui met 1 000 euros. Sur Fortnite, il a mis un SMIC dans Fortnite. Et je voudrais revenir vraiment sur cette appellation d'Electronic Arts mécanique surprise. Bah, c'est pas parce que tu appelles une arme à feu un outil de dissuasion que l'arme sera non létale, tu vois. C'est-à-dire que, ok, les deux, c'est un terme différent, mais les deux, c'est un engin de mort. Et bah là, ton truc, c'est de la merde. Voilà, je suis désolé, mais tu peux changer le nom, appeler ça comme tu veux, sortir n'importe quelle connerie qui te passe par la tête.
C'est pas parce que tu appelles de la cocaïne une infusion de bonheur que
voilà. Non mais quand je dis connerie, faut savoir que derrière il y a quand même des marketeurs qui sont pris la tête pour trouver ce nom, mécanique surprise, hein. C'est fait pour entuber les gens de mieux en mieux. Après, j'espère vraiment que les gens vont pas être assez cons pour gober ces conneries d'Electronic Arts, même si je pense vraiment que bon, de ce côté-là, c'est déjà foutu parce que on critique beaucoup Electronic Arts et Epic et tous ceux qui font ce genre de pratique, mais après, est-ce que vraiment c'est pas la faute des joueurs aussi. Je suis désolé, pour moi les principaux fautifs, enfin qui sont aussi fautifs qu'eux, c'est les gens qui accordent de l'importance à ces jeux-là et qui donnent de l'argent à ces jeux-là aussi.
Ça, TH, ça me pose un problème comme discours, parce que c'est un peu comme reprocher à un alcoolique de boire de l'alcool, enfin c'est...
Bah oui, mais bon, si un alcoolique n'aurait pas commencé à boire de l'alcool, tu vois, c'est... Le succès de Fortnite, il a été propulsé par qui ? Grâce aux joueurs. Donc je veux dire, est-ce que nous aussi on n'est pas responsables de ça ?
Enfin, à un moment donné, je suis désolé... Il y a des gens qui ne sont pas conscients de certaines problématiques et qui s'en foutent. Est-ce que, pour autant, ça veut dire que il faut exploiter la faiblesse des gens ?
Bah non, ça veut pas dire que, genre, Epic et Electronic Arts sont innocents dans cette histoire. Ce que je dis, c'est que les gens ont cautionné le système. Donc, du coup, maintenant qu'il est là, c'est aussi de leur faute.
Oui, et alors ?
Bah, c'est tout ce que je dis. Moi, je dis juste que la responsabilité vient aussi des joueurs.
Oui, mais justement, tu ne dis rien d'autre. Mais je devais te dire pourquoi il m'agace ce discours, ATH, parce que ce discours, c'est celui qui est utilisé dans tous les domaines de lobbying. Le consommateur, il est responsable. Donc, puisque le consommateur est responsable, nous, vous avez compris, on s'en bat les couilles. Hein, et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à pas acheter et puis ça n'arrivera pas.
Bah ouais, mais
ça marche pas comme ça. Je suis désolé, c'est du bullshit, ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui pense en matière de système, c'est-à-dire que moi, vous savez, les histoires de libre arbitre, etc. J'y crois pas trop. Moi, je pense qu'on est fortement influencé par notre environnement, etc. Et que bon, le libre arbitre, c'est vraiment quelque chose qui se trouve à la marge, quoi. Et donc, du coup, j'ai tendance à penser que quand tu veux changer quelque chose dans une société qui marche pas, bah, il faut traiter le problème par le haut et que ça sert à rien de se dire que, franchement, si les gens se prenaient en main et qu'ils disaient tous non, il se passerait quelque chose. Personnellement, j'y crois pas trop.
Ouais, mais enfin, moi, c'était pas sur cette partie-là que je parlais. Je disais juste que c'est les joueurs qui sont responsables du succès qu'ils ont accordé à ces titres-là. Maintenant, moi, je pense que, normalement, il y a quelqu'un qui doit réguler tout ça, c'est l'État, qui doit mettre des lois pour empêcher justement qu'on ait ce genre de dérive. Après, que les gens dépensent 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, au bout d'un moment, ils l'ont voulu. Ça regarde chaque individu.
Ah, c'est là où on n'est pas d'accord.
Bah, pour moi, si demain j'ai envie de dépenser, je sais pas, 200 euros sur Fortnite, j'ai tout à fait le droit, si tu vois pas.
Ça contredit ton discours, parce que juste avant, tu disais qu'il fallait que l'État fasse quelque chose.
Non, si l'État, moi je dis qu'il faut que l'État mette des régulateurs. En ce qui concerne les mineurs, tu vois, genre, qu'ils mettent une certaine somme d'argent que tu peux dépenser dans le mois. si t'as par exemple 16 ans ou moins. Après, c'est le problème de chacun. Tu parles du mec qui boit de l'alcool, qui est alcoolique. Qui va empêcher de boire sa bouteille d'alcool? Personne. Si le mec il a envie de boire, il va boire au bout d'un moment, même si tu l'en empêches, il trouvera un moyen contourné pour le faire. Et c'est ça qui est le problème. C'est que même si on va mettre des limites à ce genre de système, même s'il y a des lois qui vont être faites et tout, il y a toujours des manières de contourner les choses.
Je suis désolé, hein, si on interdisait les lootbox par exemple, il y a personne qui pourrait y toucher, hein, même en faisant des efforts.
Mais ça, franchement, je pense pas que ça sera interdit, tu vois.
Attention, hein, moi je suis très réaliste, hein, je sais que ça n'arrivera pas, mais... Moi, je pense qu'on se porterait bien mieux si on interdisait ça purement et simplement. Et que les histoires de liberté, à un moment donné, voilà quoi, la liberté d'exploiter les faiblesses des gens pour leur soutirer de l'argent...
Bah, mais voilà. À part d'être, je crois, c'est à Hong Kong ou Pékin, je sais plus exactement, où le jeu d'argent est interdit, si tu considères le lootbox comme un jeu d'argent... Bah dans ce cas-là, tu interdis la française des jeux en France, par exemple. Et ça, c'est jamais de la vie, ils vont l'interdire, tu vois.
Ah, écoutez, moi, j'y serais pas hostile, personnellement, mais ce n'est que mon avis.
Toi, voilà. personnellement, moi non plus, tu vois, j'en ai rien à foutre de la franchise des jeux ou des lootbox et tout ça. Mais par contre, si tu enlèves ça, mais il y a beaucoup de gens qui vont râler aussi. Et c'est ça le problème.
Écoute, on verra bien, de toute façon, ça n'arrivera pas.
Bon, c'est vrai.
Messieurs, on va se dire... rendez-vous à la semaine prochaine. Ah non, effectivement, il y a des chances qu'on ne fasse pas de podcast la semaine prochaine, les gens. Pourquoi? Parce qu'il va faire chaud, on va mourir cette semaine à Paris, et quelque chose me dit que le week-end prochain, je vais avoir envie de me reposer. Voilà. Allez, salut les gens. Ciao.
Salut tout le monde.
Salut et merci à tous.